C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Le nom de Jean Héroldi est très associé à la mode. Il a été designer, il a été chroniqueur de mode. Il a animé des émissions de télé comme Héroldi pour une sortie. Ben, nouvelle surprenante aujourd'hui. Jean Héroldi se lance en politique. Oui, vous avez bien entendu. Avec l'équipe de Nicolas, il est au bout du fil. Salut Jean.
Ça va bien?
Ça va bien, toi-même?
Imagine-toi quand tout ça, je suis aussi courtier immobilier.
Bon, OK, j'ai lu ça. Ben, en fait, c'est que ton compte Instagram dit bientôt courtier immobilier. Donc, c'est fait.
Ben c'est fait, mais tu sais, les gens, c'est parce que quand les gens nous connaissent pour un métier, on dirait que c'est difficile pour eux de voir que tu peux faire autre chose que ça.
Écoute, tu veux être conseiller d'arrondissement du district de Champlain-L'Île-des-Sœurs pour l'équipe de Denis Coderre. Pourquoi?
Ben écoute, moi déjà à l'Île-des-Sœurs, j'habite ici depuis 10-12 ans. Je suis super impliqué, je suis sur la fondation de l'école, je suis sur le CE de l'école, même j'ai plus d'enfants qui vont à cette école-là. Donc, tu sais, je connais beaucoup l'île, j'aime beaucoup l'Île-des-Sœurs, Verdun. Je trouve qu'on est chanceux d'avoir tout ce qu'on a. Et je suis près des gens, donc je suis à l'écoute. Et je vois qu'il y a des choses aussi qui font pas. Cet hiver, là, moi, j'ai appelé une couple de fois à la mairie pour dire le banc de neige à telle place est dangereux pour les petits élèves qui traversent la rue. Donc, je suis impliqué. Donc, pour moi, c'est pas comme un nouveau métier. C'est plus comme d'aller publiquement de ce que je faisais déjà un peu.
Écoute, tu parles de banc de neige, là. Conseiller d'arrondissement, là, c'est vraiment des dossiers là, hyper terrain. Là. Les lampadaires défectueux, camions de déchets qui oublient sacs de vidange, des plaintes pour chiens qui sont pas à l'est. C'est loin du glamour des émissions de mode. On va se dire ça comme ça, là. Convainc-moi que ça t'intéresse fondamentalement.
Patrick, il y a deux affaires. La mode, là, l'image qu'on se fait de la mode et ce qui est vraiment la mode, je veux dire, dans le temps de la pandémie, j'ai parti une nouvelle compagnie de masques, là, où je travaillais 18 heures par jour à une chaleur épouvantable, tout l'été passé. Si c'est ça le glamour de la mode, j'aime mieux aller voir le camion qui a pas fait son déneigement comme il faut ou la poubelle qui a pas été ramassée. Tu sais, le côté glamour, ça existe que dans les films ou quand tu t'inscris au Collège de la Salle. Après ça, c'est passé et la mode, c'est autre chose que ça.
Non, mais tu comprends ce que je veux dire en glamour, quand je te parle de glamour de la mode.
Non, mais
je comprends que ça, mais on t'a vu sur les tapis rouges, t'as animé des émissions, t'as commenté des trucs qui sont plus fun que de parler des camions de déchets, ça, je veux dire.
Non, mais j'aime encore ça, mais j'ai tout le temps été quelqu'un qui était à l'écoute. Tu sais, même dans mes shows que je faisais, j'étais à l'écoute. Les gens que je rencontrais dans les centres d'achat, j'étais à l'écoute. J'aime ça, être près des gens, puis... Comme je vous disais tantôt, je l'ai fait au niveau de l'école. Ça fait, je pense, 7 ans que je suis le conseil. Donc, pour moi, c'est pas... je te dis pas que je vais en faire une carrière non plus, puis je te dis pas que je vais devenir conseiller d'arrondissement pour devenir conseiller de ville, pour devenir maître, pour devenir... Pour l'instant, c'est pas ça mon plan de carrière. C'est de l'essayer, puis je pense sincèrement que je vais aimer ça.
OK. Le gros dossier qui te préoccupe dans ton coin, Champlain-Île-des-Sœurs, la chose que tu aimerais changer dans le district, c'est quoi?
Hey Patrick, je peux même pas te rentrer là-dedans parce que ça fait comme 2 semaines que j'ai accepté. J'ai même pas eu le temps d'étudier les dossiers, mais je sais très bien que à Lille, ici, tu sais, même ce matin, il y a un gars qui m'a écrit, là, il voudrait un jeu de croquettes, puis il voudrait avoir un terrain de baseball. Il y a les beaux lacs aussi à l'Île-des-Sœurs qu'on voit qui sont mal utilisés. Il y a le terrain de golf qui aussi fait beaucoup, beaucoup parler. Il y a des nouvelles tours qui se construisent, à mon avis, beaucoup trop à l'Île-des-Sœurs. Il y a la circulation aussi à l'Île-des-Sœurs qui se passe. Donc, il y a plein de dossiers, mais présentement, je peux pas te dire, je vais m'arrêter sur tel dossier. Je suis pas rendu assez loin en campagne, puis je connais pas. Je parlerai à travers mon chapeau, puis c'est vraiment ce que je veux pas faire. Mais par contre, à partir du moment où je suis impliqué en politique, moi, j'ai toujours dit, je critiquerai pas un politicien si je m'implique pas. Comme dans toute autre chose de la vie, si tu t'en mêles pas puis tu veux pas, mais viens pas critiquer. Donc là aujourd'hui, je vais pouvoir critiquer, puis je vais pouvoir aider à améliorer, je pense, les choses du mieux que je peux.
OK, toi t'habites à l'Île-des-Sœurs, mais il y a une partie de Verdun qui est dans ton district quand même là, non Île-des-Sœurs. OK. Puis je sais là tu m'as dit là, j'ai pas pris connaissance de tous les enjeux, mais quand même, écoute, dans Verdun, faites un peu de recherche, il y a beaucoup d'histoires d'éviction, qui est des gens qui perdent leur logement. C'est peut-être moins le cas à l'Île-des-Sœurs, parce qu'on sait beaucoup de propriétaires.
Non, ça, c'est une fausse idée, parce qu'à l'Île-des-Sœurs, il y a beaucoup de loyers aussi. On pense qu'à l'Île-des-Sœurs, ce sont que des gens riches et des grosses maisons.
Est-ce que les rénovictions sont pas vraiment un problème comme ça peut l'être dans Verdun? C'est ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu réponds aux gens inquiets de perdre leur logement dans Verdun, par exemple? Qu'est-ce que ça peut faire un conseiller de ville pour ça, d'arrondissement, pardon?
Écoute, c'est sûr qu'on va travailler pour justement, comme partout à travers Montréal, d'essayer de trouver ou de faire des nouvelles constructions pour pallier ça. Mais Patrick, je peux pas te parler de ça aujourd'hui. Je veux dire, ça serait vraiment te faire à croire quelque chose. Laisse-moi le temps d'arriver, puis tu m'en reparleras dans 6 mois.
OK, parfait. Regarde, je te ramène sur un terrain un peu plus connu pour toi. Écoute, puis là, on s'en va vraiment dans quelque chose d'un peu plus superflu, Jean. Les espadrilles Nike de ton patron Denis Coderre avec ses vestons, c'est-tu une contravention de style, ça?
Ben moi, je pense que non.
Ça, t'es sûr?
Toi, tu trouves que oui?
Ben, écoute, quand t'as 25 ans, peut-être, là, mais il me semble que pour Denis...
Ben, c'est ce que je trouve, que le costume, tu sais, le veston avec le pantalon, ouais, qui est un peu un jean blanc, avec l'espadrille qui est blanche, sincèrement, moi, elle est pas venue me chercher l'œil. Si ça avait été un Nike coloré, mettons, je te disais, là, il pousse peut-être un peu fort.
Okay.
Mais ça disparaissait un peu, puis de toute façon, pour un politicien, faut pas que ce soit son vêtement qui ressorte, mais la personne. Donc, faut faire attention.
Mais parlant de vêtements qui ressortent, Jean, j'ai vu que M. Coderre avait des pantalons blancs aujourd'hui. Je pensais que c'était une faute de style, ça aussi, les pantalons blancs.
Maintenant.
Non?
Ça en était une, il y a plusieurs années, mais tu sais, je faisais des contraventions de style, là, oui, le 10 ans. Aujourd'hui, j'aurais beaucoup plus de misère à en faire parce que tout est à la mode et tout est permis partout.
Okay.
Donc, ça devient comme difficile, mais non. Moi, je pense pas que. Est-ce que moi, j'en porterais un pantalon blanc? Je te dirais que non. Mais ça peut marcher.
T'as l'air d'un gars qui a peur de critiquer son chef.
Oh, pas en tout. Je veux dire, s'il me demande mon avis, je vais lui dire, mais ça a toujours été comme ça, hein. C'est les gens qui me demandent leur avis. C'est pour moi qui arrive en disant, hey, madame, vos cheveux, là, c'est trop long. Puis si vous étiez 2 tons plus blonds, ça vous ferait mieux. J'ai jamais fait ça. C'est la madame qui vient me voir et elle me dit, hey, mes cheveux, qu'est-ce que t'en penses de la couleur? Là, je peux me gâter dans ce temps-là.
OK, on revient dans un registre plus sérieux. Pourquoi Denis Coderre et pas Valérie Plante?
Ben, premièrement, moi, je me suis fait approcher par Antoine Richard, celui qui veut devenir maire à Verdun. Puis j'ai vraiment aimé sa personnalité, son énergie. Et je dois t'avouer que moi, Denis Coderre, j'ai toujours trouvé que c'était un gars qui avait l'air à aimer sa ville, qui avait des gros projets. Et je le trouvais aussi présent dans le temps. Tu sais, dans les événements, tu veux savoir comme moi que Denis Coderre, on le croisait souvent. Donc, je le trouve très impliqué à sa ville. Puis moi, j'aime ce côté-là. Puis c'est ça.
Avais-tu déjà été approché pour faire le saut en politique avant ça, Jean-Héroldi?
Pas du tout.
Y avais-tu pensé avant qu'on t'approche?
Bien, j'avais pensé un peu, mais à un moment donné, c'était plus en politique provinciale, mais je me disais tout le temps, ah, est-ce que j'aimerais ça me faire critiquer? Est-ce que j'aimerais me faire aimer par 51% des gens, puis pas aimer par 49% des autres? Puis juste cette question-là m'avait dit non. Mais là, au niveau de la ville, conseiller d'arrondissement, je trouve que c'est plus, pour moi, c'est plus léger.
As-tu peur de vivre un choc thermique? Parce que, bon, comme animateur, comme chroniqueur, tu sais, t'as une personnalité très sympathique, appréciée des gens. Là, tu l'as dit, c'est sûr que tu vas te faire lancer des tomates. Juste en annonçant que tu te présentes avec une équipe plutôt que l'autre, il y a des gens qui vont se lever pour t'haïr.
Oui.
Tu es capable de vivre avec ça?
Oui, je suis capable de vivre avec ça. J'en ai connu des pires que ça, des commentaires sur Facebook. Ben tout au long de la carrière, le temps en a mené les nouvelles émissions qui sont arrivées. Quel âge me donnez-vous est arrivé? Oui. Ça a fait une tollée jusqu'à temps que les gens voient le premier épisode puis que tout le monde dise ah ok, ça fonctionne. J'ai eu à me défendre avant que ça commence en onde, mais regarde, après tout ça, là, puis tous les commentaires, je suis capable de bien, je pense, prendre les commentaires négatifs. Puis je suis capable de prendre les commentaires négatifs, puis des fois les gens ont raison, puis j'aiderais à changer la suite des choses, peut-être.
Ben écoute, bonne chance dans cette nouvelle aventure, Jean-Héroldi. Puis écoute, on va suivre ça avec intérêt. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
Ça me fait plaisir, bonne journée.
Salut, c'était Jean-Héroldi. Vous le connaissez comme un spécialiste de la mode, a eu des émissions de mode. Chroniqueur de mode se lance maintenant en politique avec l'équipe de Denis Coderre.
Patrick Lagacé en accéléré.
Bon, on va parler tout de suite de rentrée scolaire. Vous le savez, là, les profs viennent d'arriver à l'école, commencent à poser les posters, dépoussiérer, peut-être même des fois un petit coup de peinture, organiser la classe pour que nos enfants soient bien à l'aise dans les classes. Mais c'est une rentrée scolaire pandémique. C'est une rentrée scolaire qu'on espérait, disons, plus calme, plus douce que celle de l'année passée, d'il y a un an. Il semble que ce ne sera pas le cas. Gracieuseté de la 4e vague du variant Delta. On va parler immédiatement avec Josée Scalabrini. Elle est présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement FSECSQ. Madame Scalabrini, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
Qu'est-ce qui n'est pas encore clair pour la rentrée en ce 23 août?
Qu'est-ce qui est clair pour la rentrée ce 23 août? Au mois de juin, l'année passée, on avait dit que les choses seraient vraiment claires avant de commencer la nouvelle année et qu'on aurait un point de presse à la mi-août pour mettre la table et rassurer tout le monde. À la mi-août, il y a eu un point de presse de notre ministre, mais qui nous a beaucoup expliqué qu'il attendait les directives de la santé publique avant de confirmer les choses. Mmh. Il y avait de bonnes nouvelles où on nous disait que c'était probablement une entrée normale. Et depuis, on est en attente et on n'a pas les dernières consignes pour savoir qu'est-ce qui arrivera. Moi, je dis toujours, vous savez, aujourd'hui, là, les enseignants, c'est la journée là où la direction fait une assemblée générale et elle voit tout le monde et elle a toute son équipe ensemble pour donner les consignes, pour dire comment on va travailler. Nous, on avait beaucoup demandé d'avoir tout en main pour cette journée-là pour que les équipes écoles voient venir. Je sais qu'on n'a pas... faut attendre la santé publique, qu'on n'a pas ce qui va se passer dans chacune des régions, ce qui va se passer dans chacun des établissements. Mais au moins, on avait dit, si vous pouvez nous dire sur quoi vous allez baser vos critères pour prendre ces décisions-là, si un jour, on a à avoir des protocoles d'urgence, si un jour, on a à porter des masques, tout ça, sur quoi la santé publique se basera pour prendre ces décisions-là? On n'a pas ces réponses-là et pourtant, tout le monde est dans nos écoles. Semblerait que ce matin, vu qu'on était en conférence de presse de la rentrée comme organisation CSQ, le ministre Dubé aurait dit que dans quelques heures, on aurait ces réponses-là. Pourtant, la rentrée est faite, les assemblées générales sont faites, mais on ne pouvait pas discuter de ça aujourd'hui.
OK, on va passer là, quelques thèmes. Par exemple, le masque. Est-ce que vous savez si le masque, là, en l'état actuel des choses, là, est-ce qu'il est obligatoire en classe?
Avec ce que nous avait dit le ministre de l'Éducation il y a deux semaines, c'est dans la classe, on pouvait enlever le masque. Dans les lieux communs, on devait avoir les masques. Mais ça pouvait être appelé à changer si les choses changeaient au Québec avec le variant. Et c'est là que nous, on disait, oui, allez-vous nous dire qu'est-ce qui doit changer pour que la décision change? Et c'est ça qu'on n'a pas eu les réponses.
OK. Si un élève infecté dans une classe, un élève qui contracte le coronavirus, est-ce que la classe est fermée? Ça, est-ce qu'on le sait?
On ne le sait pas encore. On est en attente parce que pour le primaire et le secondaire, ce sera différent parce qu'on se rappelle que les 12 ans et plus ont pu avoir le vaccin. Dans beaucoup de lieux, il y a des écoles qui n'ont pas leur 75%, mais il y a beaucoup de centres et d'écoles qui auraient leur 75%. Pour les 12 ans et moins au primaire, il n'y a pas de vaccin. Donc, non, on n'a pas ces consignes-là exactement.
OK. Pour le parascolaire, là, évidemment, je pense plus au secondaire. Les activités parascolaires comme le sport, est-ce qu'on sait si ce sera ouvert, par exemple, uniquement aux élèves vaccinés?
On a parlé d'un passeport vaccinal pour faire certaines activités, des activités où il y aurait plus de contacts et tout ça, mais elles n'ont pas été nommées. On ne sait toujours pas. Puis moi, j'ai appelé à une grande prudence. Hein. Vous voyez comment réagit la société, comment réagissent des adultes quand on parle de vaccination, de passeport vaccinal, on est pour, on est contre, tout ça. J'ai dit, faites attention, si vous faites vivre ça aux élèves, à des jeunes, que des jeunes seraient rejetés de certaines activités parce que des parents décident qu'ils n'ont pas eu les vaccins, il faudra que ça se fasse avec beaucoup de doigté. Puis encore là, il faut qu'on voit venir. On n'a pas vu venir. On est commencé aujourd'hui et on n'a pas ces réponses-là.
OK, la ventilation, à votre connaissance, là, est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles où on a amélioré la ventilation pendant l'été?
Si je me fie aux enseignants qui m'en ont parlé, est-ce que c'est juste les milieux qui ont des problématiques qui nous en parlent? Là, je peux pas vous dire. Mais si je me fie aux milieux qui m'en ont parlé, on nous dit, dans nos écoles, il y a rien qui a changé l'an passé. Il s'est pris des tests, mais non, il n'y a pas eu de... Pourtant, le ministère et le ministre avaient dit qu'il y a de grands nettoyages qui s'étaient faits et que la ventilation était quand même mieux. Là. Fait que je m'avancerai pas trop là-dessus. Je ne sais pas, mais aux yeux des enseignants qui étaient dans des établissements, pour eux autres, l'an passé, à la fin de l'année, il se passait pas grand-chose. Et est-ce qu'on a pu faire les 3000 écoles durant la période estivale? On peut en douter.
OK. Est-ce que les profs devraient être, comme les employés du système de santé, obligatoirement vaccinés?
Nous, on est pour la vaccination. Est-ce que ça devrait être obligatoire? Moi, avant de me prononcer là-dessus, j'aimerais bien savoir quel est le pourcentage d'enseignants qui n'est pas vacciné et comment on traiterait ce sujet-là. C'est très délicat. On est en pénurie d'enseignants et moi, je dis, on n'a pas les moyens de perdre aucun enseignant. On pourrait-tu avoir des données? Ils l'ont pas fait. Ils l'avaient fait pour la santé quand on allait se faire vacciner et qu'on disait qu'on était quelqu'un de la santé. Et, il y avait un formulaire à remplir. En éducation, on ne l'a pas fait. Donc, on n'a aucun chiffre là-dessus. Ça nous prend des chiffres. Moi, je pense que le taux de vaccination est très, très élevé. Si jamais il y a des exceptions, avec tous les besoins qu'on a, est-ce qu'on pourrait trouver d'autres façons de faire avec ces enseignants-là? Si c'est vrai qu'on retourne en confinement, selon moi, on aura sûrement besoin d'enseignement à distance. Il y aura des solutions, mais est-ce qu'on doit se garrocher dans une obligation de vaccination avec toutes les problématiques que ça amène avec le Code du travail? Posons-nous la question et donnons-nous des réponses avant de s'en aller vers là. On a assez de problèmes à gérer présentement.
Est-ce que, si l'employeur demande à ses employés profs, dites-moi si vous êtes vacciné ou pas, trouvez-vous que c'est une intrusion dans leur vie privée?
Est-ce qu'on le fait pour les autres citoyens? Et je vous ai dit, tu sais, dans des milieux,
Je vous pose la question. S'il y a un centre de service scolaire qui demande aux profs, écoutez, on veut savoir là qui est vacciné, qui ne l'est pas pour essayer de se préparer. Trouvez-vous que c'est intolérable comme demande?
Bien, moi, je considère que si on le fait pas ailleurs, pourquoi on rentrerait dans la vie des gens comme ça à partir du jour où le gouvernement n'a pas passé de loi? Regarde, écoutez-moi bien, M. Dagacé, le gouvernement n'a pas passé de loi où il obligeait la vaccination. Donc, moi, je serais qui pour aller vous dire à vous, mais maintenant, il va les obliger à répondre à une question comme ça.
Je vais vous contredire, Mme Scalabrini, c'est dans la loi sur la santé publique. Le gouvernement a le pouvoir en vertu de la loi, Certains groupes de citoyens.
Certains groupes, mais est-ce que les enseignants étaient là-dedans?
Mais écoutez, d'un bord, vous dites, on ne sait pas si il y a beaucoup d'enseignants qui sont vaccinés. Puis de l'autre, vous me dites, ce que j'en déduis avec ce que vous êtes en train de me dire, vous voulez pas que le boss pose la question au prof?
Ben moi, je pense qu'il y a une façon d'aller chercher très facilement ces statistiques-là. Il y a une façon de faire.
La façon la plus simple, c'est de poser la question aux principaux intéressés. Puis vous semblez pas très chaud de l'idée.
Moi, je vous dis qu'on aurait dû faire ce qu'on a fait en santé. Maintenant, dans un petit milieu,
qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que vous voulez dire?
Ce qu'on a fait en santé.
Je comprends, mais c'est pas fait. Fait que là, à partir du moment, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait?
Ben, je vais vous répondre que ça va prendre énormément de doigté parce que comme on s'est dit tantôt, là, moi, je vois la population réagir, là. Et on n'a pas besoin d'animosité dans nos milieux.
Je vous pose une autre question. Un parent qui souhaite savoir si l'enseignante de son enfant est vaccinée. D'après vous, est-ce que l'école doit donner cette réponse-là aux parents?
À partir du moment où on peut pas obliger un enfant à avoir été vacciné puis à le savoir pour l'instant, là, j'aime pas le deux poids, deux mesures, là. On n'avait pas d'obligation de se faire vacciner, donc pourquoi on amènerait ici? Trouvons une façon, c'est pas moi, c'est la santé publique qui va aller dire comment on peut gérer ça. C'est le gouvernement qui va décider
qu'est-ce qui est si intrusif, intolérable à demander aux enseignants dans des écoles? On sait que ce sont des vecteurs de contamination. Êtes-vous vacciné ou vous n'êtes pas vacciné? C'est quoi la grande intrusion ici, là? Pourquoi vous n'êtes pas capable de me dire oui, cette question-là est légitime?
Parce que je veux éviter ce qui se vit dans la société présentement et ce auquel j'assiste et que vous assistez. C'est cette façon qu'on détourne les vrais problèmes pour aller s'attaquer sur est-ce que j'étais pour ou contre, quand on sait que la très, très, très grande majorité a été pour les vaccins. Les enseignants attendaient ces vaccins-là. Moi, je suis pas certaine que présentement, c'est ça le vrai problème-là. Si on a à passer par là, si on a à aller chercher des données, le gouvernement décidera s'il va chercher ces données-là.
Je m'excuse de vous interrompre, Mme Scalabrini, mais quand vous dites que c'est pas le gros problème, si on a une adulte qui parle devant des enfants qui sont pas vaccinés et qu'elle est contaminée asymptomatique, elle va disséminer le virus partout. Je veux dire, c'est pas vrai que c'est pas un problème.
Donc, que la santé publique donne des règles très directes, que le gouvernement prenne des décisions et qu'on s'en tienne tous à une même façon de faire pour tout le monde, non?
Pourquoi vous protégez la minorité de la minorité?
Non. On défend les droits collectif à un moment donné. Et c'est pour ça qu'on a été pour la vaccination. Puis on voulait
Mais ça coûte, ça coûte rien de dire qu'on est pour, Mme Scalabrini, quand vous n'êtes pas capable de dire oui, on devrait avoir la vaccination obligatoire. Puis quand vous n'êtes pas capable de dire c'est une question légitime de savoir si le prof de ma classe, de la classe de mon enfant, est vacciné.
Vous dites... Parce que tout comme pour un élève, je voudrais pas, moi, à un moment donné, qu'un élève soit mis de côté pour une décision de ses parents. Exemple, ben, je voudrais pas qu'un prof soit ostracisé pour une décision de couple. En quelque part, à un moment donné, vous connaissez le tabac comme moi, M. Lagacé. Vous savez qu'il se passe tellement de choses dans notre société présentement, là, que oui, il y a peut-être dans des milieux des femmes ou des hommes qui ont décidé d'être discrets sur un choix familial qui est fait pour cette vaccination-là. Puis moi, je veux pas m'embarquer là-dedans. Mais si on joue dans le droit des gens, oui, c'est sûr que comme représentante syndicale, je vais intervenir, mais moi, je vais continuer à dire que je suis pour la vaccination et que je souhaite une vaccination parce que pour moi, ça passe par la vaccination, le fait d'espérer revenir à une vie normale à un moment donné. Mais il y a des gens qui partent de beaucoup plus loin que vous et moi dans tout ça, puis il faut trouver la façon de faire, de les convaincre d'aller à cette vaccination-là.
Merci, Mme Scalabrini.
Merci à vous, M. Lagacé.
Salut, c'était José Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Ben, vous l'avez entendu. Écoutez, c'est oui pour la vaccination, mais on va pas. Le syndicat va pas appuyer non plus le fait de demander aux enseignants de dire si oui ou non ils sont vaccinés. Donc, si vous êtes un parent et que, je sais pas moi, vous êtes pas vacciné parce que vous êtes immunosupprimé, par exemple. Mais vous n'avez pas le droit de savoir si l'enseignante de votre enfant est vaccinée ou pas. C'est une intervention, c'est une information à ce point confidentielle que le syndicat ne va pas le demander à ses membres de la révéler. On en a parlé la semaine passée. C'est assez incroyable ce qui se passe aux États-Unis, dans le sud des États-Unis. Il y a plusieurs États, là, je pense au Mississippi, je pense à la Floride, qui sont en certaines régions de ces États-là au bord de la rupture dans le système hospitalier. Pourquoi? Ben parce que des gens qui ne sont pas vaccinés sont hospitalisés. Ça surtaxe les unités de soins intensifs, ça surtaxe tous les hôpitaux qui sont ainsi affectés. On va parler de tout ça avec Dr Julien Cavanaugh, neurologue spécialisé dans les maladies infectieuses et auto-immunes du Massachusetts General Hospital à Boston et aussi professeur de neurologie à l'Université Emory d'Atlanta. C'est là-bas, en Géorgie, qu'on le rejoint. Dr Cavanaugh, bonjour.
Bonjour.
On s'est parlé la semaine passée et déjà, c'était la situation était critique. Écoutez, je veux partir d'une anecdote, en fait, d'un fait qui est sorti de Floride là, dans les dernières heures. Il y a la ville d'Orlando qui demande aux résidents d'utiliser moins d'eau potable parce que pour traiter l'eau potable, on utilise de l'oxygène liquide et là, cet oxygène-là est envoyé dans les hôpitaux. Qu'est-ce que ça dit sur la situation?
Ça dit que l'épidémie est complètement hors de contrôle en Floride. En moyenne, on est à plus de 21 000. Il y a même plus de comparaison à faire avec le Québec ou le Canada, tellement c'est tellement plus de cas. Donc, mais une comparaison qui me vient en tête, c'est la France, par exemple, qui fait 70 millions d'habitants et qui est autour de 20 000 cas par jour. En Floride, ils sont 15 millions. Donc, ça vous donne une idée de l'échelle. Et puis, il y a 16 000 personnes qui sont hospitalisées en Floride avec la COVID. C'est un nombre absolument astronomique de patients. Et donc, ça prouve bien que, Floride a perdu le contrôle de la pandémie, que le système de soins est complètement saturé et qu'on arrive à un moment où absolument tout dans l'utilisation, la parcimonie d'utilisation des ressources compte. D'où cette mesure un peu folle, quoi, de limiter l'utilisation des stations d'épuration d'eau pour pouvoir avoir de l'oxygène médical.
Auriez-vous pensé, quand vous faisiez vos études de médecine, quand vous avez commencé à pratiquer aux États-Unis, Dr Cavanaugh, qui est une sorte de mec de la science, de la médecine, qu'un jour, dans ce pays-là, on en viendrait à un tel état de rupture?
Non, c'est quasiment un scénario de film apocalyptique, quoi, hein, qui était très à la mode depuis quelques années. Mais évidemment, on n'imagine pas qu'on va vivre quelque chose comme ça. Maintenant, ce que je veux insister, c'est aussi quand même la résilience extraordinaire des travailleurs de la santé ici, qui reviennent jour après jour, qui n'abandonnent pas, qui font plus avec moins, et qui maintenant, après un an et demi de pandémie, continuent à rester sur le pont. Et vous savez, je trouve que d'une certaine façon, on a aussi fait des progrès, et on a fait aussi des progrès dans l'ensemble du système de santé en termes de relationnel et de travailler ensemble, parce qu'on sait qu'on ne peut plus être cloisonné, il faut absolument qu'on réussisse à bosser ensemble.
Au Québec et ailleurs, Dr Cavanaugh, là, il y a un discours qui est assez populaire, là, celui selon lequel il faut, je cite, « vivre avec le virus ». Il faut s'habituer, on peut pas toujours arrêter la vie, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là qui pensent qu'il faut vivre avec le virus?
Mais écoutez, on vit déjà avec ce virus depuis un an et demi, mais on vit avec ce virus si on met en place les mesures de santé publique qui sont nécessaires pour y faire face. Si on dit vivre avec le virus, c'est rien faire du tout, pas porter de masque, pas se vacciner, pas confiner quand c'est nécessaire, pas utiliser de distance sociale... Ça veut dire un échec complet. Je pense que les gens qui recommandent ça ne se rendent pas compte de la catastrophe que ça impliquerait. Il suffit pourtant de venir en Floride pour s'apercevoir à quel point, même avec un taux de vaccination assez élevé d'ailleurs, sans mesures de santé publique, on s'en sort pas. Donc effectivement, vivre avec le virus, ça veut dire qu'il va sans doute y avoir des vagues, les unes après les autres, jusqu'à ce qu'on arrive à un contrôle de l'épidémie sur la planète. Que pendant ces vagues, il va falloir continuer à porter le masque, se mettre en distance sociale, qu'un certain nombre d'activités vont être limitées et que il va falloir arriver à des taux de vaccination très, très élevés pour que tout ça soit contrôlable et gérable par le système de soins. C'est ça que ça veut dire vivre avec le virus.
Docteur Cavanaugh, la vie politique aux États-Unis n'a pas toujours été aussi polarisante. On le sait, là, c'est un pays où il y a une énorme polarisation entre les républicains et les démocrates. Si cette pandémie était survenue il y a 20, 25 ans, quand la vie politique était moins polarisante, est-ce qu'on en serait là?
C'est vraiment une très bonne question. Peut-être pas. C'est vrai qu'il y a eu une dérive, en particulier à l'extrême droite de toute une partie de la base républicaine, notamment, hein, et qui commence à peser quelque chose qui est sans doute 25 et 35% de la population maintenant. Et cette base républicaine qui est anti-science, qui dérive vers le sectarisme religieux, qui refuse les vaccins, pèse tellement lourd sur l'échiquier politique pour les républicains, que finalement des gens comme DeSantis ou Abbott en Floride et au Texas respectivement se retrouvent à donner des gages que sans doute ils n'auraient pas donné il y a 20 ou 25 ans pour marquer des points politiques. Et donc c'est le sacrifice de la politique de santé publique, de bon sens finalement, qui est sacrifié au nom de donner des gages à des gens qui préfèrent croire des idioties sur les réseaux sociaux que de mettre la moindre contrainte dans leur vie au regard de porter le masque, de se faire vacciner, etc., qui sont des méthodes qui pourtant fonctionnent.
Docteur Cavanaugh, en fin de semaine, là, on a assisté à une scène assez incroyable. L'ex-président Trump a fait un discours à ses partisans et il a mentionné avoir été vacciné et je dirais du bout des lèvres a dit « Écoutez, allez vous faire vacciner ». Il a été hué par certaines personnes. Quelle lecture vous faites de ces huées? Il y a quand même un fort symbole là-dedans.
J'ai été très très frappé par ces images et on voit d'ailleurs que l'ancien président Trump est très très mal à l'aise et qui transpire hein, quand il s'aperçoit que sa foule bien-aimée le hue comme ça. Et moi j'ai été le premier à dire il faut qu'il fasse davantage, il faut qu'il appelle ses troupes à se faire vacciner. Mais finalement quelque part le monstre qu'il a déchaîné dans l'opinion publique est maintenant complètement hors de son contrôle et finalement je crois qu'il n'est pas en mesure de véritablement changer le cours des choses. Ce mouvement anti-science, ce mouvement anti-vaccin, il va être très, très difficile à ramener à la raison. Et c'est ça qui me rend un peu pessimiste, malheureusement. Est-ce que ça ne va pas prendre une génération pour vraiment retomber sur nos pieds et retrouver notre bon sens ici en Amérique?
Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Toujours un plaisir.
Merci de votre invitation. À bientôt.
Salut, c'était Dr. Julien Cavanaugh. Il est neurologue spécialisé en maladies infectieuses, pratique à Boston et aussi à l'université d'Emory, pardon, à Atlanta, en Géorgie. C'est là qu'on le rejoint aujourd'hui.
Patrick Lagacé, en accéléré.
OK, histoire bien triste dont on va parler. Le 7 juin dernier, Robert Leblanc rentrait du travail en Bixi et est rendu au coin des rues Berry et Ontario. Là, c'est tout près de la gare d'autobus. Monsieur Leblanc se préparait à repartir quand un autre cycliste qui descendait la côte Berry l'a percuté. Et pour ceux qui connaissent l'endroit, là, la côte Berry, ça descend très, très rapidement, au point où M. Leblanc a été propulsé de son vélo, s'est fracassé la tête au sol. Il en est décédé. Aujourd'hui, son fils demande qu'il y ait plus de sécurité sur les pistes cyclables. Il est avec nous. Félix Leblanc, bonjour.
Oui, bonjour.
D'abord, mes condoléances à vous et à votre famille pour le décès de votre père, Robert Leblanc. Parlez-moi de M. Leblanc, votre père, d'abord, pour commencer.
Oui, ben merci. Merci beaucoup pour les condoléances. Écoutez, c'était mon père. C'était une très, très bonne personne, très sécure. En fait, qui prenait la sécurité assez à cœur en vélo, je vous dirais. Qui en faisait beaucoup, justement, parce qu'il était conscient de tout ça. Donc, qui participait au club de cyclistes de Sutton tous les week-ends, qui faisait beaucoup de voyages de vélo presque chaque année. Voilà, c'était pas un cycliste du dimanche, si on peut dire. Comme quoi, malheureusement, ça peut arriver vraiment à n'importe qui sur un accident là comme ça.
Monsieur Leblanc, les accidents de vélo, ça arrive. Heureusement, d'habitude, bon, on va se casser un os et on n'en parle plus. Des gens qui se tuent à vélo, ça arrive aussi, malheureusement. Mais des gens qui se tuent à vélo parce que deux vélos sont frappés, c'est quand même assez rare. Là. Votre père a été très malchanceux.
Oui, effectivement, il a vraiment été malchanceux à la mauvaise place au mauvais moment, comme on s'est fait dire, malheureusement. En fait, à vrai dire, c'est le deuxième cette année même qui a eu un accident vélo contre vélo. Plutôt, quelques semaines juste avant lui, il y avait eu un autre accident au circuit Gilles-Villeneuve, deux vélos qui s'étaient rentrés dedans. En fait, malheureusement, mon père a été le deuxième effectivement à cette intersection-là qui, faut le rappeler, est vraiment considérée comme une intersection dangereuse depuis plusieurs années déjà.
Dites-moi, si votre père avait été frappé par une voiture, la police enquêterait, mais là, comme ce sont deux cyclistes qui se sont frappés, c'est pas la police qui enquête. Qui enquête sur les circonstances qui entourent la mort de votre père, Robert Leblanc?
Oui, ça, c'est quelque chose qui, en fait, nous a vraiment frappé et assez étonné, moi et ma famille, c'est que, à vrai dire, comme vous avez dit, s'il avait été frappé par une voiture ou qu'il était rentré dans une voiture, la police serait intervenue et elle aurait fait une enquête tout de suite. Semblerait-il parce que, bon, avec la SAAQ et tout ce que ça implique, mais vélo-vélo et vélo-piéton, il n'y a tout simplement pas d'enquête et on laisse pas mal les faits tels qu'ils sont. On a essayé à plusieurs reprises d'avoir des informations de la police, ce à quoi on n'a jamais pu avoir la moindre information sur ce qui s'est passé, autre que ce que le reconstitutionnaliste a pu nous dire. Mais oui, effectivement, en fait, et après même avoir parlé à des fondations comme le vélo fantôme, on m'a dit que oui, c'est un peu la triste réalité des cyclistes, c'est qu'on n'est pas du tout représenté ou protégé par ça.
Félix Leblanc, vous avez donné une entrevue à la presse et vous avez plaidé pour, je vous cite, là, des pistes cyclables qui pardonnent. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ouais, ben en fait, qu'est-ce qu'on entend par des pistes cyclables qui pardonnent? C'est avec des installations qui sont un peu moins... je vous dirais, ben évidemment, ça va de soi, qui sont moins dangereuses, mais qui a plus de marge de manœuvre. Je vous explique, c'est par exemple dans le cas de la piste cyclable de Berry, il n'y a aucune marge de manœuvre pour les personnes qui descendent. Du moins, il y a même un mur qui sépare la piste cyclable des gens qui arrivent en direction du centre-ville sur Ontario. Donc, il n'y a absolument aucune marge de manœuvre pour les cyclistes de savoir si c'est quelqu'un qui s'en vient. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé lors de l'accident du 7 juin. Puis qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est d'avoir vraiment des installations qui focusent aussi sur, oui, l'efficacité à vélo, mais qui sont évidemment, qui pardonnent, comme par exemple avec des voies de sécurité pour les portières ou juste des sas, en fait, aux intersections. C'est des trucs qui sont pas sur toutes les pistes cyclables, mais qui aide pas mal, je vous dirais.
Écoutez, votre père ne portait pas de casque. Vous avez un regard là-dessus, sur toute la question là, qui revient souvent dans l'actualité quand il y a des accidents de vélo, du port du casque obligatoire. Est-ce que ça devrait être obligatoire?
Ben, ouais, ça, c'est comme un peu une question plutôt difficile, dans le sens que je comprends les arguments des deux côtés, du sens que ça peut être extrêmement difficile de légiférer pour ça et d'obliger les gens, en fait, ou du moins la police, d'intervenir dans ces cas-là. Par contre, qu'est-ce qui est, d'une certaine façon, je crois, un bon terrain d'entente à ce niveau-là, c'est de faire comme certains de nos voisins au Canada ont fait, et ce serait de l'obliger pour un groupe d'âge, par exemple 18 ans et moins ou 12 ans et moins, juste pour que quand, en fait, la personne le cycliste serait plus vieux et se promènerait en ville, ben il aurait déjà eu le réflexe, puis ça lui donne le choix. Bon, est-ce que après ça, c'est lui qui décide s'il le met ou pas. Mais je pense que d'obliger ça comme demain matin, ça serait pas faisable ni logique. Mais c'est sûr que mettre un casque entre vous et moi, c'est comme mettre sa ceinture de sécurité en voiture. Ça a pris un certain temps avant que les gens aient ce réflexe-là, mais un jour, peut-être, ça va être le réflexe.
Félix Leblanc, je fais du vélo en ville, là, je prends mon auto, mais je prends le vélo aussi souvent. Puis ce que je remarque, c'est que chez les gens qui sont en bixi, il y en a pas beaucoup qui portent des casques. C'était le cas de votre père. Est-ce que j'imagine que quand il faisait du vélo là ailleurs à Sutton, vous dites qu'il faisait des voyages de vélo en Europe, il devait porter son casque à cette époque-là.
Oui, toujours effectivement. Oui, c'est sûr. Je veux dire, n'importe quand qu'il n'était pas sur un bixi, je le voyais jamais sans son casque. Même que je le voyais effectivement arriver au bureau des fois avec son casque. C'était pas tous les jours qu'il ne mettait pas son casque. Cette journée-là, il faisait particulièrement chaud. Le 7 juin, peut-être qu'il est parti en se disant « Bon, je vais avoir trop chaud si je le mets. » Et bon, il est arrivé ce qui est arrivé. Voilà, vraiment revenir en arrière là-dessus, mais c'est sûr que même ce qu'on nous avait dit à l'hôpital, malheureusement, c'est que l'impact a été tellement fort lors de l'accident qu'avoir même eu un casque, on ne sait pas ce qui aurait pu arriver.
Oui. Et connaissant le secteur, là, à quel point ça descend vite quand on descend Berry vers Ontario, j'ai pas de difficulté à le croire. Merci beaucoup, M. Leblanc.
Merci à vous.
C'était Félix Leblanc, fils de Robert Leblanc. Monsieur Leblanc est décédé dans un accident de vélo atypique, vélo contre vélo. C'est extrêmement rare. On va poursuivre la réflexion tout de suite avec Luc Ferrandez. Salut Luc.
Salut.
Qu'est-ce qui retient ton attention dans cet accident-là, qui est une exception, vélo contre vélo avec un mort? C'est assez rare quand même.
Oui, mais c'est à cause de la rue Berry, évidemment. Tu sais, il y a les statistiques sur les morts piétons cyclistes qui sont surtout faits avec les voitures, mais quand même, je pense que c'est la même chose avec un cycliste contre un cycliste arrêté ou qu'un cycliste contre un piéton. C'est la suivante, puis elle est facile à se rappeler. Si tu te fais frapper à 30 km/h, généralement c'est par une voiture, là. Mais mettons que tu te fais frapper par une auto, par un vélo. Si tu te fais frapper à 30 km/h, tu as juste 10% des chances de mourir. Si tu te fais frapper à 60 km/h, tu as juste 10% des chances de survivre. C'est statistique facile à retenir. Hein? 10% dans les deux cas. Soit tu survis, soit tu meurs. Et là, moi, j'ai pas de doute qu'un cycliste peut rouler à 60 km/h dans la côte Berry. Puis même, j'ai l'impression que je comprends ce qui s'est passé parce que je me rappelle d'avoir fait souvent la même chose. Parce que j'ai pris cette côte-là tellement souvent parce que l'hôtel de ville était en bas de la côte, puis moi, j'habite en haut de la côte. Et ce qui se passe, c'est que le cycliste, à la mi-pente, sans doute qu'il a vu que le feu était vert depuis un certain temps. Il avait deux choix. Il ralentit pour s'arrêter. Il est à bonne vitesse. Il est dans une descente. Puis là, s'il prend le feu vert, il va rouler longtemps sans faire d'effort. Puis le feu est vert. Mais depuis longtemps, fait que, j'ai des chances de le rater. Il accélère. Il accélère. Puis à peu près quand il arrive dans les 20 derniers, 15 derniers mètres, ça tombe jaune. Là, il y a deux choix encore. Freiner, mais freiner sec, ou accélérer encore, parce que je vais passer sa jaune. Et le cycliste de l'autre côté s'est dit, ben, elle est jaune, puis il a commencé à s'avancer. Et là, on a un cycliste qui arrive comme un boulet et un cycliste qui est carrément arrêté. Et ça, c'est la condition idéale pour avoir un décès.
Luc, je connais bien ce coin-là, puis tu le sais, là, pour aller au centre-ville, t'es en pente. Puis tu le sais que t'es en pente quand t'es en vélo. Quand tu remontes en char, tu le sens pas trop, là. Moi, je suis fasciné par le nombre de cyclistes qui roulent en fou dans les pentes. Je dois te le dire, là. Moi, cette pente-là, je la descends sur les breaks en bon québécois. Même chose sur Saint-Urbain, je me fais dépasser. Je les vois qui pédalent pendant qu'ils descendent.
Oui, oui, oui.
Puis je
oui.
me dis, écoute, toi, il y a un écureuil qui passe, il y a un déchet sur la piste, n'importe ouais. quoi, tu vas t'envoler. Ben, Christy, il y en a un qui en est mort.
Ben oui, puis c'est, regarde, t'as pas tort de le dire, en 10 ans, il y a eu 35 accidents avec blessés graves, là, suffisamment pour qu'il y ait des ambulances sur ce coin de rue-là, 35. Donc, c'est signé, là. Berry, Ontario, c'est signé. Comme tu l'as raison de dire aussi que c'est là où il y a des pentes. Saint-Urbain, dans la descente, puis les voitures qui tournent pour entrer dans le stationnement de l'UQAM, oui. c'est un endroit où qui tournent pour aller sur le terrain de l'UQAM. C'est terrible, terrible, terrible. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accidents. Mais les pentes, on est chanceux. À Montréal, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une qui est fameuse, c'est la pente du pont Jacques-Cartier. Ils ont mis des chicanes pour t'obliger à ralentir avant d'arriver vers la fin de la pente, là, parce que sinon, t'arrives vraiment trop vite, puis la piste est trop étroite, très très étroite d'ailleurs. Alors, dans une pente, il faut vraiment regarder l'intersection comme il faut. Puis là, la ville veut pas refaire complètement l'intersection parce que il faut qu'ils refassent la station, la paroi d'étanchéité de la station de Berry. Ils vont devoir excaver Berry au complet dans pas longtemps. Alors, ils veulent pas faire des travaux avant de faire des travaux. Mais c'est clair qu'il faut la refaire. Il faut, on peut ne pas avoir une chicane, mais on pourrait avoir un petit muret de protection, comme il y a d'ailleurs des murets de protection sur certaines, sur certains terre-pleins de boulevards. On pourrait avoir un petit muret de protection sur Ontario, ou alors une façon de faire une déviation de la piste qui descend, qui amorcerait un tournant, pas un tournant à 90 degrés, évidemment, mais qui amorcerait un tournant pour faire ralentir les cyclistes. Et c'est sûr que ça prend une solution.
Luc, l'aménagement, c'est le grand allié de la sécurité quand on parle de sécurité routière, que ce soit pour les autos, les piétons, les cyclistes. Une fois que ça c'est dit, là, puis qu'il y a un problème d'aménagement, trouves-tu que de manière générale, les cyclistes à Montréal, de manière générale, j'insiste là, trouves-tu qu'ils sont assez prudents?
Oui, ils ont pas le choix parce que ça avance pas. La plupart des cyclistes, évidemment, notre regard est attiré par le cycliste qui va super vite. Regarde, les chiffres, c'est les suivants.
Qui passe les stops, qui passe les rouges.
Oui, oui, ça, c'est clair. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Moi, je te dis, je vois plus de cyclistes qui passent ces rouges que d'autos qui passent ces
rouges. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais par contre, il y a des statistiques bien claires qui disent que le nombre d'actes illégaux est le même des deux côtés. Simplement, ce ne sont pas les mêmes actes illégaux. Oui, un cycliste va passer sa rouge. Oui, un cycliste va faire va passer sur un stop. Mais un cycliste va pas parler au cellulaire sur son vélo, à part quelques rares phénomènes. Mm-hmm. Ou alors, va pas se garer en double sur un boulevard. Tu sais, l'analyse là-dedans, c'est que les gens font des actes illégaux quand ils pensent que ça ne dérange pas ou quand ils pensent que ça n'aura pas d'impact. Fait que la plupart des cyclistes qui passent sur la rouge, ils disent « Ah, ça n'aura pas d'impact. Parce qu'il n'y a personne, parce que personne ne me voit, parce que je nuis à personne. » Mais sauf que quand tu prends l'habitude de passer sur la rouge, à un moment donné, tu vas passer pas mal proche d'un piéton. Où ça va t'arriver, c'est sûr que ça va t'arriver. Alors, faut pas rentrer dans ce raisonnement-là. Donc, oui, il y a des cyclistes qui roulent pas bien, qui roulent... Mais la moyenne des gens, là, parce que tout le monde n'est pas des athlètes olympiques, là, roule 25 km/h et moins. 25 km/h et moins, tu peux éviter tous les accidents en vélo. Le problème, c'est quand tu roules entre 30 et 40. Puis c'est rare les gens qui roulent entre 30 et 40. Mais il y en a qui sont en super forme. Puis il y a des jeunes qui ils veulent se tester. Et c'est là à 40 km/h, là ton temps d'arrêt est beaucoup plus lent, ton temps de réflexe évidemment est réduit d'autant. Donc c'est là que se produisent les accidents. Rajoute une pente, ben ça donne 35 accidents. Avec transport en ambulance en 10 ans.
Luc, je veux qu'on parle du casque parce que Félix Leblanc nous a parlé de l'accident de son père. Monsieur Leblanc portait un casque là, de façon régulière, mais ce jour-là, il n'y en avait pas. Okay? Est-ce que le casque devrait être obligatoire en vélo?
Bon, il y a eu une analyse de l'INSPQ là-dessus en 2017. L'INSPQ a commencé par interviewer des chirurgiens qui font des interventions toutes les semaines sur des accidents de vélo. Et eux, ils insistaient beaucoup pour qu'il y ait un casque obligatoire. L'INSPQ a rédigé les recommandations promouvant le casque obligatoire. Et en milieu d'étude, s'est arrêté et a changé d'idée. Parce que ce sont, à cause de ce que je viens de dire, à cause du fait que 80%, 90% des cyclistes roulent à 25 km/h et moins. Et donc, le gain à 25 km/h et moins, il est très petit. Mais pour les cyclistes qui roulent plus vite ou pour les cas de dooring, donc les cas quand tu rentres dans une portière, c'est la différence entre la vie et la mort ou entre des vertèbres cassées et pas de vertèbres cassées ou des balafres au visage. Donc, les chirurgiens qui travaillent sur, comment on appelle ça, toute la chirurgie liée aux accidents?
La médecine de traumatologie.
Eux, ils sont dithyrambiques sur le casque. Ils disent, il faut demain matin, et puis leurs enfants en portent, puis eux disent, j'ai trop vu de cas, il faut que tout le monde porte un casque. Sauf que c'est prouvé dans tous les pays qui l'ont adopté, l'Australie, les États-Unis, plusieurs pays, plusieurs provinces canadiennes aussi, c'est prouvé que ça fait largement diminuer la pratique du vélo. Et le gain que tu as en réduction d'accidents, ben tu l'as en perte de forme de santé physique, de forme physique d'un autre côté. Alors l'INSPQ finalement n'a pas rédigé son rapport, elle a retenu son étude en 2017, n'a pas recommandé le port du casque obligatoire. Mais c'est certain que si on craint un accident mortel, si tu roules à plus de 40 km/h aussi, ben ou tu sais, c'est très très rare un cas de dooring. Il y a eu deux accidents, deux morts cette année avec des portières ouvertes. La portière ouverte, tu t'en sors pas si t'as pas de casque, là. Tu t'en sors pas. Et d'ailleurs, un petit parallèle avec l'accident qui s'est passé au coin de Berry et Saint-Denis, Berry, Ontario. Un accident avec portière ouverte, ce n'est pas traité par le SPVM, parce que le SPVM ne traite que les accidents entre véhicules routiers. Et le vélo n'est pas considéré comme un véhicule routier, et la voiture garée n'est pas considérée comme un véhicule routier. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'analyse du cas Ontario-Berry, parce que c'était pas un véhicule routier, c'était deux cyclistes, il n'y avait pas de véhicule routier impliqué. Évidemment qu'il faut changer ça. Je vois pas pourquoi on se mettrait pas à réfléchir un peu à ces choses-là aussi. Peut-être que si on avait ces statistiques-là devant les yeux, sur le dooring, le SPVM les recueille depuis 2013, si on les avait devant les yeux, ces statistiques-là, peut-être que ça ferait la promotion du casque en vélo.
Luc, il y a plein de gens qui m'ont écrit pour me dire que des chevals, ça se dit pas.
Ben
là, il y a eu cette légende urbaine-là là, que ça allait être accepté, mais il faut encore dire des chevaux.
Écoute, moi, j'ai mon
obligé de taper ses doigts parce que tu as dit quelque chose de pas vrai.
Tabourette.
T'es suspendu demain.
OK, break, je vais aller à la piscine. Écoute, moi, j'ai mon casque ici. Pendant l'émission de radio, je mets mon casque. Ça, c'est dangereux quand même.
Mais je t'ai déjà vu en vélo sans ton casque.
Oui, j'ai jamais de casque. Guy Lafleur, portais-tu un casque à la fin de sa carrière?
Non. Il fumait sur le banc aussi. Est-ce que tu fumes en conduisant ton vélo?
Non, mais j'ai donc...
Es-tu Guy Lafleur?
Écoute que j'ai de la misère à mettre un casque, moi, à cause de...
Pourquoi?
Quand tu as fait des milliers de kilomètres en vélo, tu n'as jamais rien arrivé, tu te dis, j'en mettrai pas.
Annule tout de suite tes assurances pour ta maison, tu n'as jamais eu de feu.
c'est ça. L'accident, le dooring ou l'accident à haute vitesse... Les deux t'amènent à la mort. Mais ça, c'est très rare, mais ça tue.
Mais écoute, il y a quelqu'un qui m'écrit là, en direct, là, ça vient de rentrer, et je pense que ça touche beaucoup au cœur du problème. Je préfère mourir que porter un casque à vélo et avoir l'air d'un spermatozoïde. La formule est imagée, mais je pense qu'il y a bien des gens qui le portent pas juste pour des questions de look.
Ben écoute, je voudrais dire à l'auditeur, rendu au restaurant, tu peux l'enlever.
Puis regarde, je suis la preuve vivante aussi que ça ne dépeigne pas tant que ça quand t'arrives.
Non, mais quand même, je voulais t'en parler de quoi t'as l'air avec ton casque en vélo, je t'en parlerai pas en ondes.
Merci, Luc.
OK, salut, bye.
C'est vrai que je suis très élégant, mesdames et messieurs, avec mon casque.
Patrick Lagacé, en accéléré.